talmudique. Une émission de Marc-Alain Wachmann. Simon Veil, bonjour.
Bonjour.
Simon Veil, c'est un très grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans Talmudique. Vous êtes historien, vous avez participé cet été sur France Culture à l'émission de Christine Le Cerf, La Grande Traversée, une semaine entière consacrée à Einstein. Et en écoutant ces passionnantes émissions, j'ai eu envie de découvrir votre livre, Einstein dans la tragédie du XXe siècle, avec ce sous-titre Antisémitisme, Shoah, Sionisme, paru aux éditions Imago. Je dois le dire d'emblée, c'est un livre qui m'a éclairé, ébloui, et ce n'est pas une répétition.
Merci.
Passionné, un livre d'une richesse documentaire incroyable, d'une rigueur admirable, d'une grande légèreté d'écriture, qui s'efface devant le propos et donne une grande présence aux personnages et aux événements. Vous nous faites découvrir un Einstein nouveau, surprenant, attachant. Bien sûr, on y retrouve le physicien de génie que tout le monde connaît, mais on découvre surtout un homme très engagé, très impliqué dans l'histoire de son temps, un homme préoccupé du bonheur des siens, de sa tribu, comme il aimait à le dire, mais préoccupé tout autant de l'humanité entière. Un véritable personnage romanesque, formidablement complexe et au cœur de multiples contradictions intérieures. Voilà la première question qui m'est venue, bien évidemment, c'est qu'est-ce qui vous a amené à ce travail qui est le résultat de presque 10 ans de recherche? Qu'est-ce qui a poussé un jeune chercheur comme vous à se plonger dans les milliers de pages des archives Einstein à Jérusalem? Qu'est-ce que vous y cherchiez alors que l'on ne compte plus les biographies de cet homme qui est considéré, certainement à juste titre, comme l'homme le plus célèbre du XXe siècle? Simon Veil.
Alors d'abord, c'est un peu un hasard parce que j'ai écrit un article pour Historia sur Einstein et le sionisme. Et donc suite à ça, je me suis dit pourquoi pas en faire un bouquin. Et donc j'ai contacté les archives Einstein de Jérusalem, notamment Barbara Wolf, archiviste, qui m'a dit qu'il n'y avait pas eu de livre sérieux qui avait été fait sur la question. Et donc je me suis dit, poussé par une curiosité, eh bien vas-y. Et donc j'y suis allé. Et là a commencé cette épopée, parce que 10 ans c'est quand même beaucoup de temps. J'ai passé 10 ans de ma vie quand même à fouiller dans les archives, quoi.
Mais le premier article que vous mentionnez dans Historia, Einstein et le sionisme, c'est déjà une question nouvelle, parce que quand on pense à Einstein, on pense à l'homme de science, mais on ne pense pas nécessairement au sionisme. Parfois, on signale qu'il est juif, comme ça, en passant dans sa biographie. J'ai encore fait l'expérience très récemment. J'ai pris un livre de science sur la relativité. Dans tout le livre, qui fait 300 pages, on dit le mot juif apparaît une seule fois. Et le sionisme, bien évidemment, pas une seule fois. Or, votre livre, lui, est organisé en quatre parties qui sont justement des parties qui parlent du juif engagé, du juif affirmé. Enfin, c'est véritablement une réflexion sur Einstein juif. Et donc, la question que je vous ai posée, elle peut revenir, c'est qu'est-ce qui a fait qu'au début, vous avez écrit cet article sur Einstein et le sionisme, Simon Veil?
Alors, je ne vais pas faire de la théorie quantique, mais c'est un peu le hasard. Je suis curieux de plein de choses, je propose des sujets à Historia, je fouille, je farfouille. Et donc, c'est un hasard, j'ai vu un article sur Einstein et sionisme, je ne sais plus où, dans quel journal, et ça m'a donné l'idée de proposer ça. Donc vous voyez, c'est un heureux hasard. Et suite à ça, de fil en aiguille, j'ai tricoté autour de ça quelque chose en me disant qu'il y avait quelque chose à dire. Et puis, il y a quelque chose d'universel dans son engagement, parce que au fond, dans la plupart des biographies dont vous parliez, on ne parle pas toujours du juif Einstein, alors que ça a été quelque chose de très important dans son engagement et dans sa vie personnelle, émotionnelle. Et c'est vrai qu'on en parle très peu. Comme si, évidemment, ses découvertes sur la relativité sont fondamentales, éclipsent véritablement tout un autre pan de sa vie qui a été extrêmement important. D'ailleurs, son ami Maurice Solovin dit très justement que Einstein est connu à la fois pour ses découvertes sur la relativité, mais doit aussi être connu, autant connu, pour sa grande stature morale, qu'il avait beaucoup impressionné déjà dès sa jeunesse. Comme si le sentiment de justice, le besoin de justice, était quelque chose chez Einstein qui était aussi essentiel que manger et boire. ce besoin de vérité. Que ce soit la vérité dans la recherche physique ou la vérité dans la recherche morale ou de la justice. Et au fond, finalement, même s'il a rejeté le judaïsme de son enfance, puisqu'il est né dans une famille de juifs assimilés, eh bien, au fond, on pourrait voir une connexion avec un judaïsme plus ouvert, plus libéré, plus humaniste, et très profond, finalement, aussi, qui est une recherche de vérité et de justice, et qu'il trouve dans la tradition juive, mais qu'il l'étend, si vous voulez, qu'il universalise.
Alors, une tradition juive qu'il connaît malgré tout un petit peu au départ, pas, on va dire, dans l'ensemble de la grande bibliothèque, mais il a, jusqu'à l'âge de ses 13 ans, une formation, vous dites, une famille juive émancipée, qui pratique, on va dire, 3 jours par an en allant à la synagogue à Yom Kippour. On les appelle d'ailleurs les juifs des 3 jours.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Mais ses parents le mettent d'ailleurs au lycée. Il n'y a pas d'école juive dans la région, donc ils le mettent à l'école classique, catholique. Si on peut dire, catholique. Ouais. Mais en même temps, il découvre la Bible, qui est pour lui une lecture très prégnante. Et il va recevoir des cours sur la Bible qui vont quand même le marquer. Peut-être c'est là qu'il va découvrir cet esprit de justice, Simon Veil.
C'est ça. Il a reçu une formation assez poussée tout de même. Il avait des professeurs. Parce qu'en fait, bon voilà, il était à l'école catholique parce que ses parents attachaient pas une grande importance à l'idée qu'il ait une éducation strictement juive, et comme il n'y avait pas d'école juive, vous l'avez dit, à côté de chez eux, il envoyait à l'école catholique. Mais la loi de l'époque imposait, comme il était de confession juive, qu'il suive un enseignement juif. Donc il a suivi un enseignement juif avec des différents rabbins, qui lui ont enseigné un peu différentes choses, l'histoire du judaïsme, les psaumes, la Bible, etc. Les juifs en Espagne aussi, il connaît un petit peu le sujet. Mais il n'a tiré de cet enseignement, rebelle qu'il était, que ce qui l'arrangeait et ce qui l'intéressait, c'est-à-dire la substantifique moelle, le miel qui sort de la ruche talmudique, quelque chose qui butine et se dit ça m'intéresse, mais ça pas. Et donc, c'est pas un élève tout à fait strict et tout à fait obéissant. Déjà, il en fait un peu qu'à sa tête. Néanmoins, vous venez de le dire, je pense qu'il le dit lui-même, ça a été le premier émerveillement pour lui, cette découverte de la Bible, et peut-être de Dieu, puisqu'il s'est mis à croire et à plus manger de porc, etc., jusqu'à l'âge de ses 12 ans, ce qui étonnait ses parents qui étaient complètement assimilés et émancipés. Il se mettait d'ailleurs à engueuler ses parents gentiment en disant qu'il devrait pas manger de porc et faire attention. Il chantait des prières sur le chemin de l'école, donc il avait trouvé une première foi qu'il qualifie de primitive, mais qui au fond n'est pas si primitif que ça, puisque il était en connexion avec quelque chose de merveilleux, de sublime, qui est déjà le terreau nourricier de toute intelligence, d'une grande sensibilité, d'une grande émotion par rapport au merveilleux et au sublime qui se trouve autour de lui. Je crois que c'est ça.
C'est-à-dire que c'était déjà presque la rencontre avec l'absolu qu'il a ensuite recherché à retrouver dans la science. Parce que, en fait, quand même des gens comme moi, en tout cas, qui ne comprennent strictement rien à la relativité, même si on me l'explique, je crois sentir certaines choses, mais on comprend qu'il y a quand même chez lui cette recherche d'absolu, de cohérence, de l'articulation des lois du monde. Et en fait, cet absolu, il l'a déjà rencontré dans sa jeunesse, comme vous êtes en train de le décrire. Il rencontre la Bible, mais dans votre livre, le lecteur, et moi en tout cas, j'ai fait une découverte, c'est qu'il rencontre le Talmud, mais pas le Talmud que l'on croit, pas le Talmud que l'on croit. Je veux dire qu'au lieu de dire qu'il rencontre le Talmud, je vous mets sur la piste, il rencontre Talmud. Qui est ce
oui.
Talmud?
Simon Veil. Talmud, c'est un jeune homme originaire de l'Est, un juif de l'Est, que la famille des Einstein recevait charitablement pour le recevoir à manger, et qui donc a été le mentor d'Einstein dans ses premières années. C'est quelqu'un qui a une importance immense, puisque il a un nom prédestiné, Talmud, mais en fait c'est un étudiant en médecine. Donc vous voyez, on est très loin du Talmud. Mais
pas si loin que ça, quand
pas
même.
Pas si loin que ça, mais il lui envoie quand même, il lui donne à grignoter, si j'ose dire, tout un tas de livres de mathématiques, de physique, de vulgarisation scientifique, qui brutalement vont réveiller Einstein, vont, si j'ose dire, transformer la foi qu'il avait en un dieu un petit peu naïf, c'est lui qui le dit comme ça, qui dit ça après, a posteriori, en une sorte de religion de la science, où il va trouver dans cette espèce de mystère des choses de la nature, cette cohérence qu'on peut trouver dans la nature, qui peut être décryptée, et qui donc a des solutions, et qu'on peut, comme la boussole qu'il a découvert quand il était jeune, si c'est merveilleux, mais qu'est-ce qui fait bouger cette aiguille? Il y a des choses invisibles qui structurent la nature. Et donc tout ça va véritablement le fasciner. Et donc finalement, c'est une autre manière de croire en Dieu. Il va se mettre à croire en quelque chose de sublime qui se trouve dans la nature, dans la découverte de la nature par le biais de la science.
Un petit peu comme le dieu de Spinoza, dira-t-il à un certain moment, mon dieu est le dieu de Spinoza, le dieu de la nature. Mais pour revenir juste un petit instant sur ce monsieur Talmud, ce Max Talmud, oui. Qui va changer son nom en Max Talmé, qui va devenir un ophtalmologue très réputé aux États-Unis. Ce qui est intéressant dans votre livre, enfin, je dis intéressant, mais je l'ai dit au début, c'est passionnant. On lit votre livre comme un roman. Chaque page, c'est une découverte, c'est plein de découvertes sur à la fois le personnage d'Einstein qui est très attachant et très surprenant. On le découvre comme cet homme révolté, comme cet homme rebelle, comme cet homme à la fois ferme mais en même temps doux. Mais on découvre aussi tout l'arrière-fond social des Juifs de l'époque en Allemagne. Et là, on découvre par exemple dans cet épisode de Talmud, de ce jeune étudiant en médecine, qu'il y avait une habitude sociale d'accueillir parmi les familles installées des étudiants à tour de rôle pour leur donner en fait le couvert une fois par semaine.
Max Talmé finalement lui apporte une sorte de bouffée d'air, puisque Einstein a toujours critiqué avec beaucoup de fougue après le milieu bourgeois juif de sa jeunesse, où il trouvait qu'il n'y avait pas d'entrain, pas de recherche d'absolu, pas de... Et il a trouvé dans ces jeunes qui venaient de l'Est une foi, quelque chose de sincère, de pur, d'honnête, qui lui permettait de se raccrocher au sublime qu'il ressentait en lui. Et au fond, Max Talmé, c'est quelqu'un donc qui a une expérience, qui parle plusieurs langues, qui est un peu cosmopolite, qui lui apporte des émotions nouvelles. Et donc qui lui apporte aussi des savoirs nouveaux, qui lui offre sans préjugés tout un tas de choses à apprendre. Et donc, mais vous avez dit très justement tout à l'heure, parce que j'ai attaché beaucoup d'importance à ça dans mon livre, c'est de peindre la toile de fond. Et je pense que c'est extrêmement important, et peut-être dans beaucoup de biographies, on ne trouve pas assez cette peinture, puisque c'est très important de voir les interconnexions entre le milieu d'une époque et la personne qu'on décrit. Et donc c'est vrai que j'ai attaché une importance à expliquer, à décrire ce qui se passait à l'époque d'Einstein autour de lui, pour mieux comprendre, sans même d'ailleurs le faire parler, juste parce qu'on décrit l'époque, eh bien, on situe d'un seul coup Einstein dans le tableau. Et on voit tout de suite, sans même parler, on peut déjà découvrir des choses, sans même utiliser des mots.
C'est exactement ce qu'on ressent. Et je crois que les lecteurs vont le sentir d'emblée, c'est-à-dire qu'il y a un tissage, un entrelacement de la grande histoire, qui est d'ailleurs très longue, parce que Einstein naît en 1879, il va vivre longtemps, jusqu'en 1955. Ce qui est jubilatoire dans la lecture, c'est qu'on arrive justement à mieux comprendre d'une part le judaïsme, on comprend aussi mieux la grande histoire, et on comprend mieux les personnages, et en particulier Einstein. Et c'est dans cette grande histoire qu'il va y avoir trois points essentiels que vous soulignez dès le sous-titre, et on aurait pu, et je pense que beaucoup de gens peut-être, voyant ce livre avec la photo d'Einstein fumant la pipe, une belle photo assez classique mais très éloquente, en gros on voit en rouge Einstein dans la tragédie du XXe siècle, on pourrait passer à côté du sous-titre « Antisémitisme, Shoah et sionisme ». Et pourtant, c'est dès qu'on rentre dans la lecture, on voit comment vont s'articuler ces trois moments, ces trois thèmes. Et peut-être vous commencez précisément par antisémitisme, parce que il me semble, en tout cas c'est comme ça que je l'ai reçu à la lecture, que ce qui a le plus touché Einstein, même s'il ne savait pas au départ ce que c'est que le peuple juif, ce qu'est l'identité juive, tout ça, il va le découvrir au fur et à mesure de ses recherches, oui. Mais il est, je dirais, fou, amoureux du peuple juif. Il dit « notre peuple », il ne sait pas ce que c'est, mais il dit « notre peuple », il dit « mon peuple », il appelle ça « ma tribu », et il va être engagé de manière fantastique au point que dans des grandes réunions internationales, il dit « Mesdames et messieurs, je parle devant vous en tant que citoyen européen, en tant que human being, en tant qu'être humain ». Et il dit en anglais avec son accent fortement germanique « as Jew », en voilà. Tant que juif. Donc pour lui, l'affirmation du judaïsme et de l'être juif a été constante. C'est pour cela d'ailleurs que vous avez un chapitre qui s'appelle « Le juif affirmé ». Mais comment rencontre-t-il l'antisémitisme et comment cet antisémitisme va tout déclencher chez lui, me semble-t-il?
Alors d'abord, l'antisémitisme, il l'a connu déjà dans son enfance, mais ça n'a pas chez lui déclenché de réaction d'identification. D'autant qu'il avait toujours conscience d'être juif malgré tout. C'était une petite veilleuse. Mais il n'y attachait pas d'importance. Et je pense qu'il a rencontré toute une communauté juive à Prague en 1912, qui a été un peu l'antichambre du réveil identitaire. Puisque là-bas, il a rencontré toute une communauté juive avec, dans les salons de Bertha Fanta, une sioniste éthérée qui faisait de la musique. Il a rencontré Franz Kafka et tout un tas de gens extraordinaires dans une ville qui a maintenant disparu hein, les émotions de l'époque. Et c'est là-bas, je pense que il a déjà été un peu éveillé à peut-être un réveil identitaire, même si à l'époque, à Prague, il était encore un peu réticent et qu'il refusait toute catégorisation et de se dire sioniste ou juif. Et donc, lui-même le dit, c'est en arrivant à Berlin en 1914 qu'il a brutalement pris conscience et il dit que c'est une réaction purement émotionnelle. Quand il a vu tous les juifs, ses amis, collègues juifs qui faisaient un mimétisme qui dit exécrable, qui s'imitaient un peu tous les gens qui étaient autour d'eux de façon à cacher leur judéité. Donc il voyait ces espèces de juifs honteux et il considérait que c'était pas des êtres humains accomplis, lui qui était complètement authentique depuis toujours, dans ses recherches, dans sa manière d'être. Ça l'a tellement révolté, c'était une réaction émotionnelle brutale. Et donc il a réagi très fortement. Il a dit, mais voilà, face à l'antisémitisme, qui était en Allemagne extrêmement généralisé, et pas que dans certains milieux, c'est-à-dire que même à l'université, parmi les étudiants, il y avait un antisémitisme parfois feutré, parfois moins feutré, mais qui était présent, eh bien, les Juifs, la plupart des Juifs se cachaient, s'étriquaient, etc. Et lui, il s'est dit, c'est pas possible, on peut pas être un être humain comme ça. Et donc, il a réagi face à cet antisémitisme, il a dit, moi, je ne serai pas comme mes collègues juifs.
Et il a dit, et on sent dans votre livre ce souffle véritablement de fierté juive, de dignité, de la volonté de se retrouver une colonne vertébrale contre l'assimilation. Et pour lui, le juif, quel qu'il soit et où qu'il soit, doit s'affirmer comme juif. Et il dit, c'est la meilleure façon d'ailleurs de combattre l'antisémitisme. J'ai, dans votre livre, découvert, Simon Veil, cette anecdote. Vous avez parlé de la période de Prague de 1912, très importante. Au moment de devoir signer son contrat à l'université, il doit mentionner la confession. Exactement. Racontez-nous cette petite anecdote.
Oui, parce que c'est un rebelle, Einstein, donc... Il s'est toujours prétendu sans confession, confessionlos. Et donc, il arrive à Prague, c'est très administratif. Hein, pour être nommé à Prague, il y avait tout un processus administratif très complexe, etc. Donc, il va dans l'administration concernée pour sa nomination et on lui demande « Quelle est votre confession ?» Et il dit « Je n'en ai pas. » Donc, il dit « Mais c'est embêtant, cher monsieur. » Fonctionnaire, vous devez être dans une case, quoi. Alors, c'est juif, catholique, enfin, vous êtes quelque chose. Et non, et puis il est un peu rebelle, ça l'agace. Il dit non, j'ai toujours été sans confession, je vais pas quand même. Et puis bon, voyant que le fonctionnaire résiste, il dit bon, bah écoutez, il se rend compte que ça sert à rien de polémiquer, et que c'est juste une signature sur un bout de papier. Il dit « je suis de confession juive, mosaïche », c'était le terme à l'époque. Et donc, le fonctionnaire lui dit « ah oui, mais on ne peut pas changer comme ça ». Alors donc, il se gratte la tête, et puis mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Et donc, il trouve la solution, il dit « mais sur quelle foi, sur quel crédit, enfin, quelle façon je dois pouvoir changer, si ce n'est sur ma propre affirmation ?» Et donc, le fonctionnaire dit, oui, en effet, c'est votre propre affirmation qui fait foi. Bon, bah, à ce moment-là, je vous dis que je suis de confession juive. Mmh. Donc, et puis, il finit par noter.
Voilà, alors, confession juive. Moi, on le sent très, très bien dans le livre, le moment où juif Einstein, rebelle, révolté, sans confession, presque, je dirais pas athée, parce qu'on a vu qu'il y a une grande spiritualité chez lui, une religiosité. Mais là, tout à coup, il va écrire, on va dire presque forcer cette phrase mosaïque, c'est-à-dire juif. Ouais. Et là, il va commencer un combat sur tous les fronts par rapport à ce judaïsme. Et nous allons en parler tout de suite après cette petite pause musicale. Simon Veil, nous sommes en train d'écouter une sonate pour violon et piano de Mozart, précisément la sonate 378. Est-ce que vous savez pourquoi je vous ai amené ce disque ?
Oui, je crois que il l'a joué en fait quand il était à Prague. Je crois, dans les salons de Berta Fanta, où justement il y avait Max Brod, Franz Kafka qui passait souvent. Il a d'ailleurs fait des speeches sur sa théorie de la relativité. Et il jouait souvent de la musique là-bas, il adorait sortir son violon. C'était une manière aussi de s'exprimer chez lui, qui a toujours été très important. La musique a toujours été très importante pour lui.
Alors c'est très très important de souligner, vous l'avez dit juste avant la pause, cette période de Prague, qui est en fait très courte, puisque c'est juste un an, mais qui va être éminemment marquante, parce que la sonate qu'on vient d'entendre, par exemple, vous le dites dans votre livre, il la joue avec Max Brod, au piano. Quand même assez extraordinaire quand on est passionné de Kafka. Et j'ai retrouvé un petit texte de Kafka de 1917 où il met en scène la relativité telle qu'il aurait pu l'entendre, en tout cas de la bouche directe de d'Einstein. Pour situer un petit peu les personnages, on a l'impression, parce qu'Einstein, on le connaît vieux, avec des photos vieux, donc on a l'impression que c'est un vieil homme. Et que comme Kafka est mort très jeune, on a l'impression que c'est un jeune homme. Il faut savoir qu'ils avaient quasiment le même âge. Einstein est né en 1879 et Kafka en 1883. Ils ont 4 ans d'écart, donc en fait, c'est exactement la même génération. Et un des personnages qui va être un personnage clé de Prague, qui va ensuite orienter toute sa pensée, c'est Martin Buber. Et Martin Buber, qu'il rencontre à Prague, va lui faire découvrir le sionisme, mais pas n'importe quel sionisme. Et je crois que ce qui est encore formidable dans votre livre, et vous m'excusez d'utiliser ces superlatifs, mais c'est parce que c'est comme ça que j'ai ressenti cette lecture, c'est que on découvre que le sionisme pour lequel Einstein va être un militant, un combattant, pour lequel il va utiliser toutes ses armes, toutes ses forces, tout son engagement, le sionisme, c'est quelque chose qui est aussi très compliqué, très complexe. On parle de manière générale du sionisme comme si on savait de quoi il s'agissait, alors que dans le sionisme, il y a différents courants. Et le sionisme d'Einstein est un certain sionisme. Lequel, Simon Veil ?
Vous avez parlé de Martin Buber. et tous ces gens de Prague, ces sionistes de Prague. Et ben finalement, je crois que le sionisme d'Einstein plus tard, parce qu'il va finalement s'engager dans le sionisme, soutenir plutôt que s'engager, parce qu'il est toujours resté distant et en même temps extrêmement engagé, mais à sa manière. C'est dans les années 20, donc. Mais à Prague, déjà, il a déjà ce goût de ce sionisme qu'il va défendre plus tard. Il y a déjà cet esprit-là, un sionisme plus culturel, plus culturel que politique, qui n'a pas pour vocation de créer forcément un État juif, mais plutôt de donner une colonne vertébrale à des juifs en perte de repère. Un sionisme identitaire. Voilà, c'est plus ce sionisme-là qu'il a défendu toute sa vie. Et finalement, il a davantage été un ambassadeur du peuple juif, et je pense que c'est supérieur quelque part, parce que le sionisme, on a l'impression qu'il y en a qui ne sont pas sionistes. Et Einstein, quand il s'est fait ambassadeur du peuple juif plus tard, donc en soutenant aussi le mouvement sioniste, il va plus loin que le mouvement sioniste. Il défend aussi tous les juifs dans leurs différences. Et il a une grande compassion pour les juifs, même extrêmement opposés à lui. Parce qu'il essaye il comprend qu'il y a quelque chose qui leur est commun à tous. Une communauté de destin, une communauté de tradition, qui les lie tous. Et donc c'est un métasionisme, si j'ose dire.
Oui, alors vous l'écrivez très bien. Et vous dites dans votre livre que c'est un sionisme culturel, celui de Ahad Ha'am. Contre le sionisme politique, par exemple, qui était celui de Herzl.
Voilà, oui.
Et il y a quelque chose pour lequel on peut être très sensible en vous lisant, c'est la notion de nation juive, qui n'est pas l'État juif, mais qui est cette grande entité qu'on va appeler la nation, un petit peu comme les Portugais, Maran, s'appelaient eux-mêmes la nation. Et quand ils voient la nécessité du sionisme comme foyer de refuge pour combattre ou permettre à toutes les victimes de l'antisémitisme d'Europe de l'Est, d'Allemagne et du monde entier, il sent la nécessité du foyer juif, mais pour lui, ça ne doit pas être nécessairement un État, c'est un foyer, c'est un centre, à côté duquel il y a la diaspora de communautés autonomes. Et donc, on a une vision d'une sorte de nation qui est constituée à la fois d'un foyer et d'une diaspora, Simon Veil.
Le corps du judaïsme einsteinien, si on voulait tenter une image, je ne sais pas si elle va marcher, mais il y a un peu le cœur, qui est le foyer juif en Palestine, qui n'est pas un État dans son idée. Et puis, il y a toutes les pulsations qui irriguent la diaspora et qui donnent l'écho de ce foyer un peu à tous ces juifs qui, eux, ne vont pas émigrer parce qu'ils restent dans différents pays, mais en gardant une fierté juive et une grande... ils savent qui ils sont. Ils ont une identité bien affirmée. Einstein, bon voilà, il s'est engagé dans le sionisme. Enfin, il a soutenu le sionisme, justement, quand il a vu, on en a parlé tout à l'heure, ces juifs émancipés qui ensuite se sont retrouvés complètement perdus. Et ils ne savaient plus qui ils étaient.
Et en même temps, vous le montrez très bien, l'ensemble de ces milliers, voire dizaines de milliers, ou encore plus, étudiants d'Europe de l'Est, de Russie, de Pologne, qui n'ont pas la possibilité d'entrer dans les universités à cause du numerus clausus. Et il a même l'idée de créer en Allemagne des universités juives qui accueilleraient tous les étudiants qui n'ont pas la possibilité d'entrer dans les universités normales. Et on comprend très bien à ce moment-là que peut-être même ce foyer juif dont on parle, c'était l'idée de créer un pays qui serait une grande université. Et on comprend à ce moment-là le soutien qu'il a donné fortement à la création de l'université hébraïque de Jérusalem. Vraiment, pour lui, le judaïsme, c'est, comme il le dit, c'est à la fois l'idéal démocratique de justice sociale, mais et l'idée de devoir d'entraide et de tolérance envers tous les hommes. Mais il dit en même temps, c'est le deuxième trait caractéristique de ce judaïsme einsteinien, comme vous le dites, c'est la haute valeur reconnue à toute aspiration spirituelle, à tout travail intellectuel, l'idée de l'étude comme colonne vertébrale du peuple juif. Et si les étudiants n'ont pas la capacité, lui qui a rencontré des difficultés dans les études quand il était en Suisse, quand il était dans différents endroits, véritablement on dirait presque que c'est un combattant pour l'étude et oui, un ambassadeur non seulement du peuple juif, mais peut-être des étudiants du monde entier, Simon Veil.
Oui, c'est vrai, il a été révolté de voir tous ces juifs de l'Est, tous ces talents, dont il percevait le brio et la maestria, tous ces gens qui avaient des choses à faire dans ce monde et qui étaient incapables de rentrer dans des universités parce qu'il y avait des numerus clausus. Donc ça l'a révolté, ça, véritablement. D'autant que pour lui, la culture est sacrée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est peut-être sûrement une des portes d'entrée dans son judaïsme. Puisque son engagement, il va incarner son engagement, son soutien au mouvement sioniste, justement par la création de cette université hébraïque à Jérusalem, qui, dans son idée, pourrait être un centre de recherche pour aussi certains Ostjuden, juifs de l'Est, qui pourraient venir étudier là-bas, qui ne peuvent pas ailleurs, et puis pour faire de cette université un phare extraordinaire de la culture à la fois juive, mais aussi de la culture universelle, dans les recherches en physique, en sciences. Donc, c'est par la culture. Il voit dans le judaïsme, la culture est dans sa vision du judaïsme extrêmement importante.
Alors, merci beaucoup Simon Veil pour cette conversation. L'émission touche à sa fin. Nous avons abordé quelques points essentiels de votre livre, auxquels je renvoie. Einstein dans la tragédie du XXe siècle, Antisémitisme, Shoah et Sionisme, aux éditions Imago. C'est un livre qui donne envie d'ouvrir encore plein d'autres livres. Je pensais à cette grande encyclopédie qui s'appelle Les Juifs dans l'Histoire, chez Champvallon, et je pensais aussi à ce livre de Martin Boubert aux éditions Lieux communs qui s'appelle Une terre et de peuple, sur sa vision du peuple juif comme état binational. C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Waknin, préparée avec Françoise-Anne Ménager, à la réalisation d'Annie Journeau.
Merci beaucoup.